dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans l'Amérique et vous, édition du vendredi 30 août 2024. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la situation humanitaire en Afrique et de l'assistance des États-Unis. La secrétaire d'État adjointe du Bureau de la population des réfugiés et des migrations, Julieta Valls-Noyce, a annoncé le 26 août une aide humanitaire à l'Afrique subsaharienne de plus de 64 millions de dollars, ce qui porte l'aide humanitaire américaine à l'Afrique subsaharienne à plus de 3,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024. Les États-Unis sont fiers d'être le plus grand donateur humanitaire du monde à l'Afrique, indique un communiqué du département d'État qui ajoute que cette aide permettra aux partenaires humanitaire des États-Unis de répondre aux besoins urgents et vitaux des réfugiés et autres populations déplacées et vulnérables, de trouver des solutions durables, notamment les retours volontaires ainsi que l'intégration locale au sein des collectivités d'accueil. Nous en parlons avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines. Bonsoir, Monsieur Cohen.
Bonsoir.
Nous avons depuis Bamako au Mali Mohamed Abdelahi El Khalil. Il est sociologue, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel et facilitateur pour la prévention et la gestion des conflits. Monsieur Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur et bonsoir monsieur Cohen.
Voilà, et nous espérons avoir depuis le Cameroun Mouma Bi Yvonne. Elle est la présidente des femmes camerounaises pour la paix. Nous les retrouvons dans quelques instants pour les échanges. Voilà, on va commencer tout de suite avec l'ambassadeur Cohen. Alors, ambassadeur Cohen, je l'ai dit hein, tout à l'heure en introduction, les États-Unis viennent d'accorder 64 millions de dollars supplémentaires, ce qui porte à 3,8 milliards de dollars pour l'exercice 2024 d'aide que les États-Unis ont apportée à l'Afrique subsaharienne. Alors, qu'est-ce qui explique, ambassadeur Cohen, que les États-Unis apportent autant d'aide humanitaire en Afrique alors qu'ici aux États-Unis même, il y a les Américains ont leurs propres problèmes? Qu'est-ce qui explique le soutien, l'assistance humanitaire des États-Unis à l'Afrique?
L'un n'exclut pas l'autre. Il y a, à cause de le réchauffement de la Terre, il y a beaucoup de gens qui en souffrent aux États-Unis et en Afrique, mais il y a assez d'argent pour tout le monde. Et je crois que tant que dans l'Afrique, la récolte est moins bonne à cause du réchauffement de la terre, les gens ont besoin d'aide alimentaire. Donc l'Amérique était toujours, depuis que moi j'ai commencé dans le métier, l'Amérique était toujours prête à aider pour les choses à manger.
Alors, Mohamed Abdelahi El Khalil, alors, vous êtes sociologue, vous êtes spécialiste des questions sociales et sécuritaires, vous connaissez très bien les problèmes des conflits. Alors, en Afrique, il y a tellement de conflits, hein, dans l'Est de la RDC, au Soudan, en Somalie, en Érythrée, au Cameroun, dans les régions anglophones. Qu'est-ce que vous pourriez dire concernant les besoins des personnes dans ces zones de conflit, dans ces zones en guerre, vu les pays que je viens de citer, quels sont véritablement les besoins de ces populations dans les zones de conflit?
Alors, merci bien pour la question très pertinente, très pointue. Je pense qu'aussi, il est très important de se positionner vis-à-vis de la vraie définition d'une crise humanitaire. Parce qu'une crise humanitaire n'est d'autre chose qu'une urgence, une situation d'urgence généralisée qui affecte une communauté entière ou un groupe de personnes dans une région, qui implique de niveaux très élevés de mortalité, de malnutrition, la propagation de maladies, d'épidémies également, d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, si nous regardons nos pays...
Allô?
Le Soudan, le Tchad, etc., les besoins réels de ces populations, de ces déplacés, de ces civils innocents et victimes de cette crise sont les suivants, c'est-à-dire il faut d'abord avoir des camps bien équipés et également les déplacés ont besoin de l'eau, des médicaments et également des appuis et pour les femmes qui ont quitté leur localité afin qu'elles puissent être bien intégrées dans la communauté qui les accueille avec la petite commerce et également les aider à comment retourner chez eux dans la paix et la tranquillité. Également aussi la question de l'éducation des enfants qui sont déplacés à cause des crises, qui quittent leur localité, qui sont là sans école. Comment les aider? Voilà un peu des besoins que les déplacés, vraiment les victimes de ces crises humanitaires réclament jour et nuit.
Retrouvons au Cameroun Moumabi Yvonne, la présidente des femmes camerounaises pour la paix là-bas au Cameroun. Il y a aussi une situation humanitaire dans les régions dites anglophones. Alors, Madame la présidente, est-ce que vous pouvez nous parler spécifiquement des problèmes, des besoins des femmes dans ces zones de crise là-bas?
Oui, bonsoir, chers toutes. Nos problèmes sont comme les problèmes de toutes les femmes en zone de crise. Les femmes camerounaises, surtout du nord-ouest et du sud-ouest, et même de l'extrême nord, en majorité, sont appelées aujourd'hui les déplacées internes. Et étant déplacées internes, on a perdu tout ce qu'on a travaillé toute sa vie pour, dont les demandes en assistance humanitaire sont énormes. Et ici au pays, on n'a même pas des centres d'accueil, donc c'est des familles entières qui se retrouvent dans les chantiers des gens, des maisons incomplètes, donc même l'habitat, les safe space, comme on appelle, elles n'ont pas. Et n'en parlons pas alors des besoins en nourriture. Cette année, avec le changement climatique, ceux qui pouvaient même se retourner travailler sur des petites parcelles de terre, les pluies, les inondations ont détruit la majorité des récoltes. Donc il y a plusieurs, toutes les formes de problèmes. Et même dans les zones où elles sont déplacées, elles sont une cause de nouvelles crises. Parce que la population haute trouve que ces femmes qui viennent s'installer chez eux consomment ce qui ne leur appartient pas.
Alors, on va revenir à vous, Moumabi Yvonne. Retrouvons l'ambassadeur Cohen. Alors, l'ambassadeur Cohen, vous venez d'écouter deux personnes qui sont sur le continent, hein, qui parlent des besoins humanitaires là-bas, qui sont très, très nombreux, ces besoins-là. Alors, les États-Unis ont beaucoup d'argent, mettent beaucoup d'argent à la disposition des populations là-bas. Comment ça se passe pour acheminer l'aide? Comment est-ce que les États-Unis définissent les priorités, définissent les pays dans lesquels l'aide doit aller? Comment ça se passe, vous qui êtes un ancien secrétaire d'État adjoint en charge des affaires africaines?
Il n'y a pas de priorité, il n'y a pas une nation africaine plus importante que d'autres. On envoie l'aide humanitaire où il y a des plus grands besoins. J'ai beaucoup peur pour le Soudan, par exemple, par masque. Maintenant, il y a une guerre interne, une guerre civile entre l'armée du gouvernement et une armée qui s'appelle RSF, qui est financée par l'Iran. Et ces deux armées ne cessent pas de tuer les propres citoyens du Soudan. Et je vois que déjà, il y a beaucoup de faim au Soudan, hein, et je crois qu'il y aura une grande famine. Donc, il faut faire tout pour envoyer des choses à manger, même s'il faut faire ça par parachute.
Alors, ambassadeur Cohen, les États-Unis ont justement des moyens à envoyer, mais on est dans des zones de crise. Vous avez par exemple deux gouvernements qui s'affrontent. Comment est-ce qu'on achemine de l'aide? À qui est-ce qu'on donne cette aide? Comment cette aide est distribuée et repartie?
On fait ce qu'on peut, n'est-ce pas? Mais c'est surtout par la Croix-Rouge, par des organisations comme World Food Program, par exemple, qui sont neutres et qui font rien dans la guerre. Ils ont les moyens, ils ont des raisons intérieures et il faut donner l'aide humanitaire à travers ces ONG.
Alors, Mohamed Abdelahi El Khalil, alors vous êtes à Bamako au Mali, là-bas aussi il y a beaucoup de déplacés internes et de réfugiés. On vient d'écouter l'ambassadeur Cohen nous dire que c'est à travers les ONG que cette aide transite pour parvenir aux populations. Est-ce que vous avez l'impression que les gens accueillent très bien cette aide? On sait que dans des pays du Sahel, par exemple, l'Occident et certains pays occidentaux sont parfois très mal vus, ou alors les gouvernements de ces pays sont en froid avec certains pays occidentaux.
occidentaux. Est-ce que quand cette aide arrive, cette aide est acceptée? Est-ce que c'est facile de déployer cette aide sur le terrain vu le contexte et les relations entre les États-Unis et ces pays-là?
Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais un peu rebondir par rapport à la question que vous avez répondu à son Excellence Cohen. C'est-à-dire, le rapport annuel du Bureau des Nations Unies pour la coordination humanitaire, qui est OCHA, sur la situation humanitaire mondiale, analyse les besoins humanitaires à l'échelle mondiale. Donc, on fera une vue d'ensemble des tendances, des défis et des besoins prioritaires. Et donc, mais quand nous regardons chez nous, ici, au centre, au Sahel central, les conflits violents font de sorte que c'est un peu difficile pour les humanitaires vraiment, d'exercer leur métier. Mais nous, aujourd'hui, je pense que la question prioritaire, c'est quoi? Les pays du Sahel ne sont pas en conflit, en réalité, avec ni les États-Unis ni certaines puissances étrangères, comme vous avez voulu souligner. Mais je pense qu'il y a juste une incompréhension aujourd'hui. Et les partenaires techniques et financiers qui apportent ces aides doivent écouter un peu les pays, ces pays-là qui sont les pays de l'Est, qui sont les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui sont les pays du Soudan, etc., etc. Les écouter, essayer de voir comment la chose s'achemine et comment la chose fonctionne. Donc nous devons avoir une nouvelle approche qui n'est plus avant parce que le monde change. Et il est urgent d'apporter des changements profonds et concrets dans la façon dont la communauté internationale réagit aux violations du droit international et des droits humains. Ça, c'est très important. Donc, elle s'efforce de prévenir les violations et les catastrophes et d'en réduire l'impact sur les populations vulnérables. Mais également, je pense que les gouvernements et les gouvernements, c'est-à-dire des pays du Sahel, des pays qui sont victimes ou des pays qui vivent la crise humanitaire, les organisations humanitaires doivent améliorer substantiellement la façon dont ils fournissent l'aide humanitaire et soutiennent les organisations locales et faire respecter les droits internationaux. C'est ça, c'est très important. Ce sont des aspects où nous devons s'épancher et chercher à comprendre. Également, et aider les communautés locales, c'est-à-dire les communautés qui reçoivent, à prendre leur avenir en main. C'est-à-dire ne pas uniquement à venir distribuer des bonbons aux enfants, donner du riz, du mil, du sucre, de l'huile, etc., etc., du savon, des cotons hygiéniques aux femmes, mais les aider à prendre en charge, c'est-à-dire leur propre destin en main. C'est ce que nous voulons ici en tant qu'Africains.
Moumabi Yvonne, vous êtes au Cameroun, vous vivez là-bas de près à la situation humanitaire dans les zones anglophones et dites anglophones, et puis dans le nord-ouest et le sud, l'extrême nord où Boko Haram aussi est très actif ces dernières années. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les États-Unis débloquent des fonds, mais cette aide ne touche pas concrètement les populations? Qu'est-ce que vous pensez de l'action des ONG, par exemple, soutenues par les États-Unis?
Alors, je pense que quand ça passe par les ONG locales, c'est traçable et c'est facile de voir si la population a bénéficié. Même comme ce n'est toujours pas suffisant, je prends le cas de l'extrême nord où j'ai été en avril. J'ai visité le camp des déplacés internes de Limani et le camp des réfugiés de Minawao. Oh là là, le besoin est énorme. Nous, en tant que femmes camerounaises, on a cotisé, nous sommes partis avec les denrées, mais on s'est vu encercler quand on a donné les denrées, on a donné aux autorités de distribuer comme ils ont l'habitude. Mais les femmes sont sorties encercler nos voitures pour nous dire, quand vous allez laisser ça et partir, nous n'aurons rien. C'est la même chose avec le nord-ouest et le sud-ouest, où pour la grande majorité, ce sont les zones très, très enclavées. Je me demande où l'aide internationale la passe. J'ai, à un moment, on a suivi que l'assistance humanitaire passait par le gouvernement. Mais c'est pour vous dire la vérité, la cible en principe ne bénéficie pas comme il aurait fallu, comme nous on aurait voulu. Mais il faut qu'on localise la distribution de ces aides. Je pense que dans le Cameroun est organisé d'une façon où, dans des différents villages, les gens savent qui est qui. Les églises, les organismes internationaux qui disent aller sur le terrain. Moi, j'ai eu une réunion comme ça avec l'ambassade des États-Unis qui nous a parlé des dons qu'ils ont donnés en quantité, mais étant sur le terrain. Moi, je ne connais pas qui a bénéficié. Au cas des placés internes, il y a quelques zones où la Croix-Rouge fait un travail énorme. Mais, comme mon frère du Mali venait de dire, sincèrement, il faut localiser il faut revoir la stratégie de cette assistance. N'allons pas les donner du poisson à manger, mais apprenons, enseignons-les à pêcher. Ce serait mieux.
Ambassadeur Cohen, vous venez d'écouter deux Africains au Mali et au Cameroun. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a un suivi quand les États-Unis débloquent de l'argent? Comment est-ce que vous faites l'évaluation et comment est-ce que vous vous assurez que l'aide parvient effectivement aux populations concernées?
Écoutez, chaque pays a sa situation à part. Je crois qu'il faut examiner la situation dans chaque pays. On peut donner l'aide humanitaire à travers le gouvernement, on peut donner l'aide humanitaire à travers les différents groupes qui sont en conflit. On peut faire ça par avion, avec parachute. Il y a toujours beaucoup de moyens de distribuer l'aide et il faut voir chaque pays individuellement. Et c'est ce que l'Amérique fait. Surtout dans le Sahel. Si, par exemple, on peut donner l'aide au Tchad, on peut donner l'aide au Mali qui peut passer au Tchad, n'est-ce pas?
Oui, mais le suivi, ambassadeur Cohen, est-ce que à la fin, est-ce que vous rappelez ces gouvernements-là pour dire qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a des sanctions? Est-ce que il y a par exemple l'USAID qui est aussi actif sur le terrain? Est-ce que cette aide-là ne pourrait pas transiter directement par les organismes américains?
Oh, surtout on donne jamais de l'argent. On passe l'aide humanitaire. Et s'il y a des gens corrompus qui, par exemple, voudraient vendre l'aide humanitaire au lieu de le distribuer, on peut imposer des sanctions contre ces gens-là. Et je l'ai fait moi-même quand j'ai été au pouvoir.
Alors, Mohamed Abdelahi El Khalil, alors, il y a tellement d'aide, hein. Il y a par exemple les problèmes de logement, les problèmes de nourriture, les problèmes même de sécurité. Alors, vous qui êtes expert en sécurité, je crois que la sécurité de ces personnes-là est l'un des premiers besoins qui se posent souvent pour elles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger davantage ces gens qui se déplacent et qui parfois n'ont pas d'assistance sur le plan de la sécurité et qui peuvent à tout moment faire l'objet d'attaques? Qu'est-ce que vous proposez sur ce plan-là?
Oui, moi, merci beaucoup pour la question très pertinente également. C'est-à-dire, il faut, soutenir ces personnes qui sont en train de s'exiler. Il faut les soutenir, leur permettre vraiment de... C'est le devoir de l'État. C'est également le devoir, ou des différents États, disons, également le devoir des partenaires techniques et financiers, afin de savoir comment ces aides-là sont acheminées. Si nous regardons le cas du Sahel, les trois pays de l'Est, selon les données d'avril 2024, plus de 3,3 millions de personnes ont été déplacées de force dans les pays du Sahel central, c'est-à-dire à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. En raison de conflits continus, et également il y a aussi les effets du changement climatique, comme a bien souligné son Excellence Cohen, c'est-à-dire ce nombre considérable de civils innocents et déracinés souligne la nécessité d'une action internationale immédiate afin d'éviter une plus grave détérioration de la situation dans ces pays-là. Mais si aujourd'hui les États-Unis font parler leur cœur, ce n'est pas une première dans l'histoire. Mais je pense qu'ils doivent veiller à ce que ces aides humanitaires-là arrivent à point nommé. Parce que nous, qu'est-ce que nous avons ici en Afrique? Souvent, les ONG ou les organisations de la société civile travaillent avec les chefferies traditionnelles et religieuses. Et quand l'aide vient au village, ça va d'abord sur le chef du village ou ça va sur le maire. Donc souvent, il y a des tracasseries par rapport à la liste qu'il doit avoir, qu'il ne doit pas avoir. Donc voilà un peu. Moi, je pense bien qu'il faudrait remettre ces dons-là, ces aides, entre les mains, c'est-à-dire, comme vous avez dit, USAID, etc., etc., afin qu'on puisse, parce qu'ils ont déjà des données dans chaque village, dans chaque région, on sait qui sont ces déplacés, comment ils vivent, ils sont dans quelles conditions. Donc, c'est très facile si vraiment les gens sont de bonne foi. Et la question sécuritaire est une question très pertinente, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez que ces gens quittent leur localité parce qu'ils sont en insécurité, et s'ils partent dans une zone, il faut vraiment les mettre dans la sécurité. Donc, l'État doit veiller à ce qu'il y ait des meilleures stratégies sécuritaires pour vraiment prévenir la vie et prévenir les conflits et sécuriser la vie de ces pauvres déplacés qui n'ont aucun soutien que la communauté internationale et l'État.
Moumabi Yvonne, je reviens vers vous pour développer davantage. Hein. Vous avez commencé à évoquer les problèmes d'accès. Vous ne voyez pas en dehors peut-être de la Croix-Rouge des organisations qui agissent concrètement sur le terrain. Et il y a donc ce problème de distribution que vient par exemple d'évoquer Mohamed, où l'aide arrive, mais les autorités ou alors les chefs traditionnels et consorts s'en accaparent. Comment, selon vous, il faut acheminer cette aide véritablement pour qu'elle parvienne aux populations concernées, affectées par les crises?
Oui, d'abord, pour qu'on distribue cette aide, il faut un travail au préalable. Il faut déjà identifier les sites où se trouvent ces nécessiteux et que on identifie leurs leaders dans différentes communautés. Moi, je prends toujours le cas du Cameroun où les déplacés internes, quand on est dans une ville comme Yaoundé, c'est très facile de leur toucher du doigt à travers les organisations de développement de leurs différents villages ou à travers des églises. Moi, j'imagine, comme il dit, les chefs de quartier, nous, on a même commencé une autre stratégie où on ne peut pas s'occuper des déplacés internes oubliant la population haute. Tu ne peux pas donner des dons à un chef qui lui-même et sa famille ont faim et tu t'attends à ce qu'il distribue aux autres. Il va d'abord commencer par se servir et servir sa famille et s'il y a un reste, sinon il s'accapare. Donc, c'est du win-win si on peut faire cette analyse et aller dans les communautés originaires de ces personnes. À travers des chefs de quartier, c'est vraiment impossible. Ou comme on est stratifié là, à travers des églises, ça passe. Des ONG internationaux qui ont au préalable identifié ces personnes qui ont besoin de l'assistance, ça peut leur parvenir. Moi, j'ai vécu une scène à Bamenda où j'ai vu stocker du matériel pour distribuer aux nécessiteux. Mais quand j'ai vu les gens alignés, j'ai reconnu les commerçants, j'ai reconnu les gens qui venaient porter les matelas dans une pick-up pleine. Là, ce n'était plus des nécessités. J'ai questionné beaucoup de personnes là. Ce n'était plus des nécessités. Donc, cette histoire d'assistance, de l'aide humanitaire, j'ai toujours dit, moi, je préférais même qu'on réunisse les gens dans des secteurs où ils sont. On leur donne un fonds de commerce, on leur donne une AGR, une activité régionaliste. Et génératrice de revenus, qui va parvenir à leurs besoins que de venir leur larguer des petits, donc qui finissent en laps de temps.
Alors, ambassadeur Cohen, votre dernier tour de parole, les États-Unis sont donc un grand donateur, mais il y a des inquiétudes. Par exemple, il y a là une élection présidentielle qui s'annonce avec le président Trump qui dit « America first » et qui pourrait peut-être réduire cette aide-là. Est-ce que les pays africains doivent avoir des inquiétudes par rapport à la mobilisation et à l'aide humanitaire américaine?
Oui, je crois que oui, parce que l'ancien président Trump et peut-être le futur président Trump, il est plutôt un isolationniste et il dit que nous avons des besoins ici aux États-Unis. Pourquoi aider les gens à l'étranger? Et c'est pas la peine, ils sont corrompus là-bas, tout ça. Donc moi, j'ai peur que si l'ancien président Trump est réélu, nous aurons des problèmes pour nos programmes d'aide à l'étranger.
Mohamed Abdelahil, un mot rapide pour terminer, un appel peut-être au gouvernement américain?
Oui, un mot au gouvernement américain, vraiment tout d'abord de les saluer pour leur initiative d'aider et de venir en aide à leurs concitoyens du monde, les Africains, mais également un mot à l'équipe de campagne de Donald Trump quand il sera réélu comme chef de l'État, comme président de des États-Unis. Vraiment de doubler les efforts au lieu de fermer le robinet, parce que sans la stabilité du monde, les États-Unis n'auront jamais la paix.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette édition de l'Amérique et vous. Au micro, Mohamed Oumoufa. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site web voafrique.com et sur nos différentes plateformes digitales. À très bientôt.